Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omani kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Vous pouvez l'entendre, nous ne sommes pas dans les studios parisiens de l'épopée, mais dans les rues de Coutances, au nord-ouest de la France, où le 1er juin dernier, une fanfare de la Nouvelle-Orléans, nommée Roots of Music, participait à la 38e édition du festival Jazz sous les pommiers, à quelques heures des célébrations du 75e anniversaire du débarquement par les forces alliées en Normandie. Nous avons donc enregistré cette épopée des musiques noires sur place et nous vous proposons de faire connaissance avec cet orchestre composé de jeunes instrumentistes de 13-14 ans soutenu par l'association Roots of Music qui vient en aide aux jeunes afro-américains défavorisés. Nous allons suivre quelques instants leur parade swing dans les rues de Coutances et nous retrouverons à notre micro Morgan Stewart, l'éducatrice et accompagnatrice de ces musiciens en herbe, qui nous rejoindra avec Mackenzie et Kelsey, deux jeunes filles pleines de talent, membres de Roots of Music, cette fameuse fanfare que vous entendez actuellement. Nous sommes maintenant en compagnie de Morgan Stewart qui veille aux destinées de cette fanfare de jeunes musiciens originaires de la Nouvelle-Orléans. Merci d'être avec nous.
Thank you for having us.
Quelle était l'intention de départ lorsque vous avez créé Roots of Music?
Le but de Roots of Music était à l'origine de fournir une éducation musicale à des jeunes adolescents défavorisés après les dévastations liées à l'ouragan Katrina. Roots of Music est une association à but non lucratif qui soutient les collégiens dans leur quotidien. Et tout cela, évidemment, gratuitement.
En quoi la musique peut-elle améliorer la situation sociale de ces gamins ?
Nous considérons que la musique peut sauver des vies. Nous considérons que la musique peut améliorer la scolarité d'un élève, si cela est la voie qu'il décide de suivre, évidemment.
Qu'est-ce que la musique vous a apporté toutes les deux ? Mackenzie.
La musique peut apporter une expérience intéressante car après l'école, on peut s'amuser tout en apprenant de nouvelles choses. Les professeurs nous apprennent aussi à bien nous comporter dans la vie.
Ça m'a donné la confiance de me lancer dans n'importe quelle discipline. En plus, en règle générale, on n'a pas grand-chose à faire en sortant de l'école, si ce n'est traîner dans les rues. Désormais, j'ai une occupation après l'école.
Est-ce que tous ces jeunes musiciens ont conscience du patrimoine qu'ils portent en eux ?
Je pense que oui, parce qu'ils sont confrontés à la musique dans les rues au quotidien. Leurs parents, leurs grands-parents, leurs professeurs ont forcément fait de la musique à la Nouvelle-Orléans. Il suffit de citer les festivités de Mardi Gras et les parades à travers les rues pour comprendre que ces gamins ont en eux, sans le savoir, un héritage musical important.
Cette fanfare, Roots of Music, a traversé les rues de Coutances, en Normandie, à quelques jours du 75e anniversaire du débarquement. Est-ce que ce symbole a une importance pour ces jeunes Américains ?
This means the world to us.
Pour nous, cela est un événement majeur. C'est un honneur et une véritable joie. Nous avons ainsi le sentiment de représenter la Nouvelle-Orléans en Normandie et de pouvoir apporter l'essence de notre culture au peuple français.
All of our essence here to share with the people of France.
It's surprising because like
c'est surprenant pour moi d'être là. Le jour J représente un tournant majeur dans le monde. Je suis juste excitée d'être ici.
Pour nous, c'est l'opportunité d'en savoir plus sur ce qui s'est passé il y a 75 ans. Nous sommes si proches de l'endroit où cela a eu lieu. C'est donc une bonne chose.
Qu'est-ce que le jazz a apporté aux Européens ?
Je pense que le jazz apporte du bien-être et l'envie d'avancer dans la vie. Le jazz, c'est l'histoire d'un peuple issu d'une culture américaine hybride. Les Français ont d'ailleurs permis à cette culture de se propager. Il était très important pour des musiciens américains d'avoir un espace d'expression en dehors du territoire américain pour qu'ils puissent faire connaître leur idéal de vie et montrer que le jazz est un mélange de plusieurs cultures.
Herbie Hancock dit que le jazz a apporté la liberté à travers le monde. Qu'en pensez-vous ?
Je suis 100% d'accord. La musique est un langage universel, comme nous ne cessons de le répéter à nos étudiants. En arrivant en France, je leur disais qu'ils avaient une occasion inespérée de communiquer avec d'autres amateurs de jazz. La musique sera le dénominateur commun. Ce vocabulaire-là vous permet d'imaginer des projets. Le jazz réunit différentes cultures sous une même bannière.
À 13 ou 14 ans, on écoute plutôt du rap, pas vraiment du jazz. Est-ce que parfois il rechigne à jouer dans cette fanfare ?
Notre chef d'orchestre a trouvé la bonne parade à ce problème. Il mélange dans le programme scolaire le répertoire d'hier et d'aujourd'hui. Il ne cesse de rappeler aux étudiants que les parades à la Nouvelle-Orléans ont toujours joué la musique populaire du moment. Par conséquent, il n'hésite pas à intégrer quelques standards hip-hop d'aujourd'hui dans notre répertoire pour que les étudiants ne trouvent pas trop monotones les répétitions et les concerts qu'ils donnent tout au long de l'année scolaire. Par exemple, les élèves sont invités à répéter un ou deux titres de Chance the Rapper, mais aussi les œuvres de Louis Armstrong ou du groupe de funk Earth, Wind & Fire. Nous faisons en sorte que les jeunes ne se sentent pas exclus, sans pour autant trahir l'esprit des orchestres d'autrefois. Nous essayons tout simplement d'exposer nos jeunes à un patrimoine qu'ils devraient connaître. Nous suivons un programme qui leur permet d'appréhender une culture qu'ils ne connaissent que partiellement. Et ce qui est rassurant, c'est qu'ils prennent plaisir à pratiquer leur instrument. Je peux donc prendre le risque de leur donner une œuvre de Jean-Sébastien Bach ou de Beethoven à répéter. Ils s'y attelleront avec la même fougue que s'il s'agit d'une chanson du Rebirth Brass Band qu'ils connaissent parfaitement. Je dois dire que Mackenzie et Kelsey, ici présentes, ne rechignent pas trop à interpréter tout type de répertoire. Mais il y a quelques membres de l'orchestre qui traînent un peu les pieds et préféreraient de loin faire du hip-hop. Heureusement pour nous, la grande majorité aime faire de la musique.
J'écoute aussi bien du rap que du jazz. Ce sont des styles bien différents pour moi. Les rappeurs parlent de leur quotidien, alors que les jazzmen évoquent davantage leurs sentiments. Personnellement, je ne m'identifie pas aux paroles des rappeurs. Je préfère donc jouer du jazz.
Est-ce qu'il est facile de discipliner 13 jeunes musiciens qui, à cet âge, n'ont qu'une envie, c'est de s'amuser ?
Considering there are 175 students in our program.
Sachant que nous avons 175 collégiens inscrits à nos cours de musique, gérer les 13 jeunes musiciens que nous vous présentons aujourd'hui est tout à fait dans nos cordes. De toute façon, la discipline fait partie du programme scolaire que nous inculquons à tous ces adolescents. Par ailleurs, la musique demande beaucoup de concentration et de pratique. Par conséquent, cela suppose de la discipline pour chacun d'entre eux. Jouer d'un instrument, c'est aussi avoir une rigueur physique comme psychologique. Tous ces jeunes s'autodisciplinent par le simple fait de jouer d'un instrument. Je dirais donc que les 13 jeunes que vous découvrez aujourd'hui sont tout à fait gérables. Par contre, s'occuper de 175 gamins peut relever du défi.
Thank you. Comment réagit le public en voyant ces gamins défiler ?
Les spectateurs sont épatés de voir ces jeunes et leur posture altière, prêts à défiler dans les rues. Et plus la parade se révèle, plus les spectateurs s'approchent de l'orchestre. J'ai même vu aujourd'hui des gens se mettre aux fenêtres de leurs immeubles pour regarder la parade passer. Cette fanfare leur apporte de la joie et du plaisir.
Mackenzie.
Je pense que les spectateurs sont tout excités à l'idée de voir passer une parade dans les rues de leur ville. Ils sont heureux de nous voir.
Kelsey?
Je pense également que le public est heureux de nous voir. En plus, ils nous soutiennent sans le savoir. On peut les voir danser et ça nous ravit.
Morgan Stewart, quels sont les classiques du jazz que l'orchestre joue dans les rues, que ce soit à la Nouvelle-Orléans ou ici à Coutances?
Évidemment, au fil des concerts, vous pourrez reconnaître des classiques de Louis Armstrong, mais aussi des œuvres plus récentes comme celles de Weber's Brass Band, d'Air Swing and Fire ou de Babyface. Et nous jouons aussi quelques chansons du regretté Al
Jarreau.
De quelle manière pouvons-nous contribuer à votre effort de réinsertion sociale de ces enfants ?
La meilleure façon de nous aider, c'est de faire des dons. Je rappelle que nous sommes une association à but non lucratif. Notre seule ressource, ce sont les dons de nos adhérents. Donc n'hésitez pas à consulter notre site internet www.theroadsofmusic.org. Vous pouvez faire un don directement sur ce site. Mais surtout, il faut parler de notre association le plus souvent possible pour nous aider à nous faire connaître.
J'ai quelques questions pour vous deux, Mackenzie et Kelsey. D'abord, j'aimerais savoir de quel instrument vous jouez toutes les deux.
Je joue de la clarinette. Moi, je joue de la flûte.
Et j'aimerais savoir quel effet ça fait d'être ici en France. Est-ce que vous sentez un changement culturel ? Est-ce que vous vous sentez très dépaysé quand vous arrivez ici en Normandie ?
Je trouve ça cool, car c'est la première fois que je quitte les États-Unis. C'est véritablement une expérience pour moi. Et c'est très différent. C'est très différent de ce que nous connaissons. C'est très particulier d'être en France. Ça change de ce que nous avons l'habitude de voir et de faire à la Nouvelle-Orléans. Vous avez l'air de vivre d'une autre manière ici. Je pense que nous apprendrons beaucoup de ce séjour. Par exemple, à la Nouvelle-Orléans, nous mangeons beaucoup de plats à base de fruits de mer. Vous ici, vous semblez manger beaucoup de sandwichs. La nourriture est donc différente. La musique aussi est différente. Chez nous, le jazz est partout. Ici, vous écoutez beaucoup de musique classique et le jazz d'autrefois. Évidemment, la grosse différence entre nous, c'est la langue. Je parle un petit peu l'espagnol, mais je m'exprime d'abord en anglais. J'ai appris quelques mots en français à l'école. Et même si quelques personnes continuent à parler français à la Nouvelle-Orléans, la plupart d'entre nous parlent anglais.
Je serais curieuse de connaître les ancêtres de Mackenzie, car son nom de famille, c'est Bourgeois. Dès que je rentrerai à la Nouvelle-Orléans, j'irai poser la question à sa maman.
J'aimerais savoir ce que vous ressentez quand vous jouez avec Roots of Music.
Je me sens plutôt à l'aise lorsque je fais de la musique. À ce moment précis, j'ai le sentiment que rien ne peut m'arriver. Je prends confiance lorsque je fais de la musique. C'est l'occasion pour moi de montrer au public ce dont nous sommes tous capables en tant que groupe.
Est-ce que vous souhaitez toutes les deux devenir des musiciennes professionnelles ?
Peut-être. Tout dépendra de mes envies quand je grandirai. Je choisirai peut-être une autre voie, j'en sais rien. Par contre, je continuerai sûrement à jouer d'un instrument avant, juste pour plaisir.
Mackenzie ?
D'un côté, je me vois bien devenir une artiste populaire, mais je me dis aussi que si je ne le deviens pas, je ne sais pas ce que je ferai de ma vie. J'envisage peut-être de devenir avocate.
Il y a mille choses que je pourrais faire, mais je ne sais pas vraiment vers quoi me diriger. De toute façon, je ne fais pas grand-chose de ma vie à l'heure actuelle. Je ne pratique aucun sport. Je ne sais pas ce que sera mon avenir.
Qui sont pour vous deux les grandes figures de l'histoire du jazz à la Nouvelle-Orléans ? Kelsey.
Louis Armstrong.
Louis Armstrong.
Mackenzie?
Moi, je dirais notre professeur, Derek Tabb.
Que diriez-vous, Morgan Stewart?
New Orleans jazz today definitely might not be a new name, but there's Trombone Shorty.
Pour moi, le meilleur représentant de la musique néo-orléanaise d'aujourd'hui s'appelle Trombone Shorty. Il y a aussi Derek Tabb, qui est membre du Rivers Brass Band, sans oublier Del Fayo Marsalis et le Uptown Jazz Band. Nous pourrions aussi citer Didi Bridgewater, qui a beaucoup fait pour la musique de la Nouvelle-Orléans. Saluons également messieurs Jermaine Basel et Keith Jordan. Ce ne sont pas les artistes les plus récents de la scène à la Nouvelle-Orléans, mais ils représentent l'histoire de notre ville. De toute façon, toute la famille Jordan devrait être honorée. Stéphanie Jordan, Marlon Jordan, Ken Jordan, etc., etc. L'une des plus célèbres formations de la Nouvelle-Orléans, c'est évidemment le Preservation Hall Jazz Band. Parmi les jeunes, on pourrait citer Ashlyn Parker et son groupe Trumpet Mafia, mais aussi Gregory Agid, excellent clarinettiste. Et je n'oublie pas Bryant Watson et son frère Michael, ou encore LeBron Joseph. Il faut véritablement que vous veniez à la Nouvelle-Orléans pour comprendre à quel point cette ville est musicale. Tous les professeurs qui prennent part à Roots of Music sont aussi d'excellents musiciens. C'est le cas de LeBron Joseph, qui se fait aussi appeler King Bronze par nos étudiants. Il est capable de jouer du jazz comme du hip-hop. Il est un peu la coqueluche de nos élèves.
Who also goes by the name of King Bronze, who plays jazz and hip-hop, which goes back to being able to relate to our students.
Quel est votre rêve le plus cher à toutes les deux?
Mon rêve serait de réussir ce que j'entreprends dans la vie.
Kelsey?
Basically, same with me.
Je dirais la même chose.
Et Morgan Stewart, quel est votre rêve le plus fou?
Part of it is we're already living the dream. We get to take the students.
Honnêtement, nous le vivons actuellement. Nous avons tout de même réussi à mener 13 de nos étudiants jusqu'ici, en Normandie, afin qu'ils puissent montrer aux Français ce qu'est la musique de la Nouvelle-Orléans et ce dont ils sont capables. Ils se sont prouvés à eux-mêmes qu'ils étaient capables de voyager ensemble. Quant à moi, mon rêve le plus cher serait que ce programme de soutien social et musical se poursuive, mais surtout, je veux qu'ils soient fiers de leur parcours et de leur engagement.
Et j'ai une dernière question, est-ce que cette interview n'a pas été trop difficile pour toutes les deux?
Ce n'était pas trop difficile parce que les questions que vous avez posées rejoignent nos préoccupations, donc non, ce n'a pas été un exercice trop éprouvant.
All right, Kelsey?
C'était un peu difficile pour moi parce que je ne parvenais pas à formuler mes réponses comme je le voulais. C'est tout de même la première fois que l'on m'interview.
Merci Mackenzie Bourgeois, merci Kelsey. Et merci Morgan Stewart. Thank you so much.
Merci and thank you for having us.
Merci.
Merci.
Nous sommes donc toujours en compagnie de la fanfare Roots of Music qui déambule dans les rues de Coutances, mais nous vous proposons à présent de retrouver une autre formation nommée Cap to Nola, Nola signifiant New Orleans, Louisiana. Nous allons donc nous déplacer de quelques mètres et nous retrouver devant la scène Avis aux amateurs du festival Jazz sous les pommiers pour découvrir des musiciens français pétris d'influence néo-orléanaise et dirigés par le saxophoniste français Bruno Willem, qui nous présente dans un instant sa fanfare, Cap to Nola. Nous sommes donc maintenant avec le groupe Captunola et son porte-parole, Bruno Willem. Comment présenteriez-vous Captunola ?
Alors Captunola, c'est un projet qui est issu directement d'une demande du festival Ville des Musiques du Monde. Il y a maintenant 5 ans, ils ont fait leur festival avec une thématique autour de la Nouvelle-Orléans. Et à cette occasion, ils m'ont demandé de diriger une fanfare amateur sur le répertoire des brass bands de la Nouvelle-Orléans. Donc j'ai accepté cette proposition et le groupe ne devait durer que la durée du festival. Il a été prolongé une année, mais en fait il existe toujours. Donc ça fait 5 ans que le groupe existe.
Alors au début c'était des adultes hein, avec vous qui participaient à ce grand orchestre.
C'est ça.
Des adultes expérimentés ?
Alors il y avait différents niveaux. Disons qu'il y avait un noyau quand même de gens qui avaient déjà pratiqué la musique en fanfare, collectivement, qui avaient l'habitude de jouer dans la rue. Donc ça a donné quand même une dynamique intéressante puisque en fait il y avait déjà un passif, un vécu.
Et puis après vous avez emmené avec vous quelques gamins à la Nouvelle-Orléans.
Oui, alors ça, c'est le prolongement de l'histoire. Alors, je vais raconter un peu les différentes étapes. Suite à cette expérience avec Captunola, j'avais également rencontré en parallèle Wilbert Rollins. Alors, Wilbert Rollins est le directeur musical du programme musique d'un lycée de la Nouvelle-Orléans qui s'appelle le lycée Landry Walker et qui est situé à Algiers, au sud du Mississippi. Donc, je suis allé voir son programme à la Nouvelle-Orléans et comment il travaillait avec les enfants. Et j'ai été vraiment séduit, enfin, plus que ça, très touché même, par la façon dont il travaillait avec les enfants sur ce répertoire de la Nouvelle-Orléans. Et j'ai proposé donc au Festival de Ville des Musiques du Monde cette expérience. Et ils m'ont suivi de façon immédiate. Donc là, ça a été une toute autre organisation que Captunola, puisque en fait, on passait d'un groupe où les gens étaient volontaires pour participer à une expérience musicale. Là, en fait, on rencontrait des enfants qui ne savaient pas ce que c'était qu'une trompette, qui ne savaient pas que la Nouvelle-Orléans était même une ville où elle était située, qu'il y avait une musique particulière qui s'y jouait. On partit de vraiment, zéro. Quand je dis zéro, c'est zéro, quoi. Et voilà, donc il y a eu cette première génération qui a travaillé. On a défriché le terrain et puis les choses ont progressé. Et effectivement, la troisième année s'est conclue sur un voyage à la Nouvelle-Orléans qui a été décisif. Parce que, en fait, il a vraiment apporté une espèce de passation qui se passe au niveau de l'intuition. C'est pas mesurable. Il y a eu quelque chose en plus. Alors, je dois dire que la spécificité du programme, elle repose sur le fait que nous sommes en collaboration avec ce lycée à la Nouvelle-Orléans. Et que les trois premières années, les lycéens, le brass band du lycée est venu à Aulnay-sous-Bois, donc en région parisienne, là où nous faisions cette action. Et maintenant, avec cette première génération, donc ils continuent. On n'est plus dans le cadre scolaire, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas au lycée, parce qu'ils sont tous dans des lycées différents. On a une répétition hebdomadaire, donc là, c'est vraiment, ils sont engagés dans le sens du groupe, ils viennent répéter, travailler, continuer à progresser, on continue à apprendre d'autres morceaux, ils sont de plus en plus exigeants. Ils ont commencé par demander certains thèmes qu'ils voulaient travailler, les choisir eux-mêmes. Alors, quelque chose de vraiment important, c'est que dans ce programme, je l'ai voulu ainsi, donc je sais que j'ai mes partisans et mes détracteurs, mais j'affirme, mon intention, c'est qu'on travaille sans aucune information musicale. C'est-à-dire que je ne leur ai rien appris. Pas le nom d'une gamme, pas le nom d'une note. On est juste en tradition orale. Alors, c'est plus tout à fait vrai dans le sens que maintenant, le conservatoire s'est greffé sur le projet et que, en fait, ils ont eu un accès au conservatoire et que maintenant, certains d'entre eux, mais on peut dire la plupart, hein, je crois que c'est 90%, s'y sont inscrits et ils suivent des cours d'instruments où là, ils commencent à apprendre maintenant, mais c'est eux qui sont demandeurs. Mais je voulais vraiment faire cet apprentissage parce que ce qui était important pour moi dans cet apprentissage, c'est de travailler sur l'intuition. Et à cet âge-là, je vais aussi prendre parti, là, hein, j'aurai aussi mes partisans et mes détracteurs, c'est que dans leur parcours scolaire, ils ont très peu de place pour leur intuition. Et voilà, c'est ce processus-là que je voulais déclencher chez eux, parce que ce rapport à l'intuition, je suis persuadé, va leur servir bien en dehors de la musique, aussi quelle que soit la vie professionnelle sur laquelle ils vont se diriger.
De toute façon, la pratique du jazz fait appel à l'émotion et à l'improvisation, donc
absolument,
à l'intuition.
Voilà.
Pourquoi vous vous êtes lancé vous-même dans cette histoire ?
Alors, sur le Captunola, moi j'étais très intéressé pour diriger un brass band qui jouait cette musique-là parce que je n'avais pas l'occasion de la jouer, donc je me disais que c'était intéressant de voir comment j'allais la faire découvrir et l'aborder. Après, sur le volet avec les enfants, en premier, ce qui m'a animé, c'est le rapport d'éducation que ça pouvait apporter. Puisque, en fait, quand on est arrivé à Aulnay-sous-Bois, on n'est pas allé n'importe où, on est allé dans ce qu'on appelle les quartiers, c'est-à-dire ce sont les cités où vivent des enfants qui, si on n'avait pas fait ce programme, n'auraient jamais fait de musique. Il faut être très très clair, ils n'auraient jamais fait de musique de leur vie. Donc ça a réellement changé leur vie, mais pas de manière uniforme. Et donc ça donne des choses très différentes. Il y avait des garçons qui étaient déjà très extravertis, qui s'exprimaient par le sport. Bon, mais cette énergie, ils ont pu la mettre dans la musique. Et je pense notamment à un des musiciens, il joue la grosse caisse. Pour lui, c'est très physique et il se retrouve complètement là-dedans. Mais je pense aussi à une autre élève qui, elle, était le contraire, très introvertie, beaucoup plus dans des lectures que dans une vie sociale. Et le fait d'appartenir à un groupe, de faire partie de ce groupe, d'aller aux répétitions, de jouer de la musique. Jouer de la musique, c'est quand même différent que de lire un livre, hein. C'est faut s'engager, faire des concerts. Ah oui, j'ai oublié de ça, c'est que dans ce programme avec les jeunes, c'est qu'ils font beaucoup, beaucoup de concerts. Ce qui pour moi est le réel examen, en fait, par rapport à l'examen de fin d'année du conservatoire. La première année qu'ils ont joué, ils ont fait 12 concerts. Des petits concerts, hein, mais aujourd'hui, au bout de 4 ans, ils n'ont absolument pas peur d'aller faire un concert. C'est une part importante du projet éducatif. C'est ça qui m'a plu, de vivre avec eux leur développement individuel et collectif. Et j'ai évidemment toujours remis ça sur le sens du collectif, qui n'est pas si différent que ça du sport collectif, hein, mais qui est dans une démarche artistique.
Merci à vous, Bruno Willem.
Merci beaucoup. Merci.
C'est sur ces notes festives et fort cuivrées de la fanfare Cap Tounola que nous allons nous quitter. Merci à l'équipe de Jazz sous les pommiers de nous avoir facilité ce reportage réalisé à Coutances, en Normandie. Merci à Laurie Plisson pour les prises de son furieusement swing de cette épopée franco-américaine. Et mes félicitations à Nathalie Laporte pour la mise en onde finale à Paris. Quelques rendez-vous à noter avant de se quitter. Le Paris New York Heritage Festival vient de débuter en Afrique du Sud. Il se poursuivra dès le 12 juin à Paris avec des concerts, des films, des conférences sur l'activisme à travers la culture. On y verra le film Rumble consacré aux relations afro-amérindiennes dans la musique. Vieux Farka Touré, Eoumir Deodato et Rachan Ahmad donneront des concerts et nous en reparlerons dès la semaine prochaine dans cette émission. Civil, trois continents, le Paris New York Heritage Festival, c'est jusqu'au 6 juillet à Johannesburg, Paris, New York, Montréal, Vancouver et Los Angeles. C'est tout pour aujourd'hui, passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.